Aujourd'hui, nous allons parler des lieux de culte. Des lieux de culte avec un parallèle qui va être peut-être osé. J'espère que vous n'allez pas être choqués. Mais je vais faire vraiment un parallèle parce que beaucoup de journalistes le font entre ces stades qui accueillent la ferveur des supporters et puis ces églises qui, je l'espère, vont continuer à accueillir la ferveur des fidèles. On voit aujourd'hui beaucoup de commentateurs sportifs qui utilisent ce vocable religieux. Ils parlent de communion, ils parlent de cathédrale pour évoquer les stades. Et on voit depuis quelques années comme un transvasement de population, finalement un peu de la nef des églises vers la travée des stades. Les ex-voto qui étaient dans nos églises deviennent des panneaux publicitaires, les transepts deviennent la rangée 12, la porte F, et c'est une forme de migration qui est un peu surprenante, qui peut nous décourager, mais qu'il faut observer, qu'il faut acter. Le philosophe Robert Redeker, vous savez, qui a beaucoup écrit sur le sport business et puis sur la dimension idolâtre et païenne de cette nouvelle religion, disait « Le monde est un stade avant d'être un marché, ou plutôt il est un stade, il peut être un marché ». Donc finalement, on voit que moins les gens vont à l'église, plus ils courent, plus ils remplissent aussi de façon peut-être abrutissante ou mercantile, c'est ce que dit Redeker, hein, parce que c'est un marché, le football. On est prêt à acheter des places de plus en plus chères, à avoir des maillots, tout en parodiant en quelque sorte des éléments religieux. Le sport spectacle est populaire parce qu'il est matiné de sacré. Et toutes les personnes qui travaillent sur le marketing sportif viennent souvent puiser dans l'imaginaire religieux et dans le sacré. C'est pas toujours du meilleur goût, il y a toujours un mélange de tic, de fric, de kitsch. Mais on voit aujourd'hui que tous ces promoteurs du sport business, ils ont reconnu ce besoin de se rassembler en cœur, de se retrouver dans ces nouveaux cénacles de béton que sont les stades. C'est un peu comme les apôtres d'une religion relookée. Ils ont sondé les âmes de leurs fidèles, ils ont étudié les mœurs de leurs prospects, de toutes ces personnes qu'ils veulent attirer pour communier à ces événements sportifs. Le stade devient donc une forme de temple pour y déployer la liturgie sportive. C'est le lieu du jeu. Vous savez, historiquement, c'est vraiment l'espace séparé avec ses codes et ses rites. Il y a une zone franche entre le sacré, qui est l'espace du jeu, et puis le profane, qui est tout autour. Le président de Toulon, l'ancien président emblématique Mourad Boudjelal, j'ai eu l'occasion de le croiser la semaine dernière dans le train, c'est amusant, en revenant de Toulon. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait pour populariser le rugby à Toulon, avec ses codes, ses rites, avec cette ferveur populaire extraordinaire. Il disait la chose suivante, il disait la différence avec les autres clubs, c'est qu'à Toulon, ce n'est pas un stade que nous avons, c'est une église. Et on ne quitte pas une église comme ça. Et c'est vrai que l'antre de Mayol, c'est une antre qui diffuse une musique particulière, une liturgie très singulière avec plein de petites coutumes locales. Le fait d'accueillir les champions en procession à l'extérieur du stade avec tous ces fidèles qui sont autour, ça peut faire penser à une procession comme celle qu'on retrouve au moment des ordinations, par exemple. Il y a toujours l'ouverture du match par un hymne local repris en chœur par la foule, le fameux pilou-pilou. Et puis cette tradition à la fin du match de déchirer les journaux, de projeter ces morceaux éparpillés dans les tribunes pour montrer que la seule actualité qui vaille, c'est celle qui se joue sur place, ici et maintenant, dans le stade et avec cette allégresse. Un jour, j'avais eu l'occasion avec l'évêque du lieu, Monseigneur Ray, de descendre dans les vestiaires du rugby club de Toulon. Et on avait retrouvé cette fraternité des combattants qui avaient tout donné sur le stade. Ils avaient eu en quelque sorte leur couronne. Et ils étaient heureux, on les avait retrouvés. C'était un match contre une équipe irlandaise et il y avait de la fumée qui se dégageait de leur corps. Et ils avaient été heureux d'accueillir l'évêque du lieu. Je me souviens, il y avait un responsable du club qui nous avait dit « c'est notre évêque ». Comme ils avaient reconnu le territoire aussi un peu ecclésial. Et ils étaient heureux de ce moment d'échange entre des combattants de la foi, le capitaine d'une équipe qui est l'évêque du diocèse, Et puis les guerriers qui étaient sur le terrain, qui étaient là pour donner de la joie aux fidèles et à la population locale. L'enceinte sportive, le ring, le court au tennis, le bassin en natation, la piste, c'est un peu comme les chœurs des églises, la clôture des monastères. Il y a uniquement les célébrants qui y pénètrent. C'est un espace qui est consacré, qui est dédié à ces athlètes, à ces célébrants, à ces juges, à ces liturges, à ces prêtres qui vont se préparer finalement à se donner pour voilà, à se donner en sacrifice en quelque sorte, à s'exposer. Ils se préparent dans l'intimité du vestiaire ou de la sacristie. Les jeunes ramasseurs de balles, je pense au tennis hein, ou au rugby ou au football, ils s'agitent le long des terrains, un peu comme les clercs qui vont circuler autour de l'autel. Ils ont été initiés pour servir, ils ont été élus. Et c'est toujours intéressant de voir ces parallèles dans l'organisation de ce spectacle sportif qui vient faire écho aussi à l'organisation de nos liturgies. Ne vous inquiétez pas, j'irai de plus en plus loin. Et là, on est à la surface. Hein, mais je pense que la religion va beaucoup plus loin. Dans le sport comme dans la pratique religieuse et en de grandes occasions, la foule va se presser pour assister à ce rituel des grandes cérémonies. On pense aussi aujourd'hui à la grandeur des stades qui a accueilli aussi des événements religieux. On dit souvent que j'allais dire la phase numéro une du sport business, c'était lors de la, ça a été initié aux États-Unis en 84 lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, mais ça avait été un peu précédé par les visites papales quand le pape est venu dans les stades et on se souvient tous nous en France de la visite du pape au Parc des Princes, de la visite du pape à Gerland. Là, le pape va venir à Marseille. On s'en réjouit en septembre prochain et peut-être ira-t-il dans un stade, sur un hippodrome comme à Longchamp. En tout cas, l'Église dans des grands grands événements finalement va venir aussi occuper l'espace sportif, parce que c'est un espace clos, c'est un espace un peu sacré, et puis c'est un espace qui permet d'accueillir des foules immenses pour communier à une même ferveur. Et les JMJ se sont aussi déroulés un peu comme dans des enceintes sportives, et entre les Jeux Olympiques et les JMJ, on voit comme une forme de parallèle. On voit aussi un parallèle dans les codes. Il y a des hymnes, il y a des drapeaux, il y a une entrée en procession, il y a voilà, cette grande ferveur. On retrouve ça aussi un peu dans les concerts, mais le sport en tout cas a compris le besoin de communier, le besoin de rite. Et aujourd'hui, dans toute cette mise en scène autour des événements sportifs, récemment, je regardais la victoire de Djokovic à Melbourne. Et bien, à la fin du match, il y a eu ce moment d'intimité du joueur avec sa famille, et puis il y a eu ce rituel de remise de la coupe avec cette prise de parole, etc. Et on est clairement dans une codification un peu sacrée. Les cathédrales, les stades, les arènes géantes accueille ce peuple qui fait corps quelque part. On est tous épaule contre épaule à l'église comme au stade et on se retrouve toujours selon le calendrier liturgique. Toussaint, Noël et Pâques, les finales nationales, les compétitions internationales, ça va rythmer un calendrier sportif. Là, on est heureux de se retrouver quasi toutes les semaines, tous les 15 jours pour les matchs du tournoi Destination. Ça s'inscrit toujours à cette période de l'année. Et eh bien de la même façon, bah au printemps, il y a ce calendrier de la Semaine Sainte qui nous amène à cette jubilation pascale. Dans tous les cas, il y a ces cantiques, il y a cette joie aussi des fidèles. Et puis, ce qui est aussi très beau, c'est que là, on parle de gigantisme, on parle de démesure, mais on a fait ce parallèle avec les grands rassemblements. Le stade est une cathédrale, mais il y a aussi finalement à un niveau plus intime, plus silencieux, les vrais connaisseurs, souvent de la foi et de la pratique sportive, les plus fervents vont pratiquer leur religion, vont pratiquer le sport dans une routine hebdomadaire, de façon plus frugale, plus spartiate, plus intimiste, plutôt dans des petites églises ou bien dans des petits stades, des stades municipaux défraîchis. On est dans un esprit plus champêtre, plus simple, plus enraciné. On est loin du bruit, de la fureur, de ces méga churches ou bien de ces grands stades. On veut approcher le mystère, y goûter, se rapprocher physiquement pour mieux voir, pour mieux percevoir, pour mieux sentir et consentir aussi l'exercice spirituel, la présence de Dieu ou bien cet exercice spirituel qui mobilise notre corps dans une pratique sportive. On y respire plus profondément, on y respire davantage l'encens, l'odeur du camphre dans les petits stades municipaux quand on joue au rugby. On écoute ce bruit des crampons ou bien les tintements de l'encensoir. Dieu parle toujours dans le silence d'une brise légère. Vous voyez, j'ai voulu mettre en parallèle un peu ces grands rassemblements dont on peut avoir besoin. Moi, je suis un des premiers promoteurs du Congrès Mission Et puis, il y a un moment où on parle au cœur du cœur. Donc, c'est la solitude du coureur de fond, du sportif. Il est loin des grandes arènes. Eh bien, c'est la solitude de ces moments où on va dans des petites chapelles latérales, dans des églises, pour nous recueillir en silence. La découverte d'un stade, ça passe toujours par un processus d'initiation. C'est toujours intéressant. C'est un peu comme un relais transmis de père en fils, d'ami à ami. Souvent, le premier souvenir d'un jeune supporter qui découvre un stade, ça s'inscrit durablement dans le marbre de son esprit, à tout jamais. Le premier club qu'il est allé soutenir sera toujours le club de son cœur. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens, j'avais 12 ans, le grand frère d'un ami nous avait accompagnés voir un match au Stade Rennais. Et puis, je me souviens toujours de cette lumière au loin, de ce bruit qui arrive, et puis on se rapproche. Mon père n'était pas là, mais on sent la protection de cette autorité qui nous initie, qui nous amène vers cette lumière. Il y avait des marcheurs épars qui convergeaient vers ce lieu de rassemblement. Hier, j'allais à la messe dominicale, j'étais heureux aussi de voir cette foule qui convergeait vers l'église. C'est pareil, on se comprend, on y va d'un pas pressé. Et il y avait les drapeaux à la main quand on va voir le stade. Et puis, quand on est petit, plus on se rapproche du stade, plus la foulée s'accélère. On sait qu'on va vivre quelque chose de fort. Les rythmes du cœur vont de plus en plus fort, de façon plus vive. Un jour, il y a un commentateur, de façon assez osée, ça m'avait fait rire, qui avait comparé l'attraction du stade la nuit un peu à la crèche de la nativité. C'est comme une lumière dans la nuit qui attire. Les supporters sont comme des bergers, ils vont monter les marches. On voudrait courir, mais on attend, on attend. Et puis on arrive, on entend le bruit des tambours qui se fait de plus en plus lourd, la clameur qui se propage. Et puis il y a une sonorisation qui nous déverse ses décibels. Et le jeune garçon dans le stade, il voit cette lumière derrière l'accès protégé par le stadier qui contrôle les billets. C'est la dernière barrière avant d'accéder au stade. Et puis on découvre cette pelouse d'un vert vif qui brille au feu des projecteurs. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, c'est la couleur aussi de la foi, avec toujours ce scénario unique. Il y a toujours cet échauffement avant, et puis ce scénario unique, c'est-à-dire que contrairement au théâtre, contrairement au cinéma, le spectacle que nous allons aller voir va toujours se dérouler selon un scénario que le temps va nous offrir, que les joueurs vont nous offrir. Rien n'est écrit en avance. C'est toujours une pièce dont on ne connaît pas le scénario, dont on ne connaît jamais l'issue. C'est ça qui est extraordinaire. Et le joueur, le jeune garçon qui va sur le sur sur qui va assister à ses premiers matchs, eh bien il va regarder l'entraînement des joueurs, il va avoir cette vision un peu globale aussi du terrain, il va commencer en voyant la circulation de la balle à anticiper aussi les passes qui peuvent se faire, et puis lui aussi, ben il communie à la détermination des champions. Il est lui-même un champion. Et puis, quand on gagne, bah, c'est lui qui gagne. Nous sommes des champions quand nous voyons notre équipe gagner. Et puis, j'évoque beaucoup dans le sport cette mécanique de l'identification. Il y a selon nos tempéraments, selon nos caractères, selon notre placement sur le terrain, là je vais parler un peu du football, eh bien il y a beaucoup de jeunes qui vont s'identifier à Mbappé parce qu'il marque les buts, mais aussi certains parfois plus réservés, plus sobres, vont s'identifier à Loris qui vient de prendre sa retraite internationale. Et nous sommes ces champions. Et dans l'église, il faudrait que cette identification fonctionne en se disant, et moi, quel saint je suis, quel champion, à quel champion de la foi je peux m'identifier? Est-ce que je suis Pierre-Giorgio Frassati? Est-ce que je suis Don Bosco? Est-ce que je serai le curé d'Ars, même si je suis un laïc, pour consoler les gens, pour être disponible à la souffrance des gens? Est-ce que je serai tel missionnaire pour annoncer la foi? Vous voyez, c'est ce mécanique d'identification. On a besoin aujourd'hui de figures inspirantes. Il y avait un grand joueur qui s'appelait Serge Betsen. J'avais eu l'occasion de le rencontrer. On l'appelait la faucheuse. C'est un joueur de rugby, un immense champion de rugby. Et il rappelait la chose suivante. Il disait, jeune garçon, il avait quitté le Cameroun avec sa maman. Jeune, c'était le dernier d'une fratrie. Il avait foulé jeune la pelouse du Parc des Princes. Et il s'était fait cette promesse alors qu'il avait 11-12 ans. Il s'était dit cette promesse en disant, un jour, j'y reviendrai. Mais j'y reviendrai pas en ramasseur de balles. J'y reviendrai en habit de lumière. Je serai un champion. Je foulerai cette pelouse. Et c'est la puissance de cette mémoire dans le petit corps de l'adolescent. Et ça a été un moteur dans toute sa vie pour l'amener à devenir un champion, à s'entraîner, à faire des sacrifices, à consentir à cette vocation de un jour fouler ce terrain. Et vous voyez, dans nos églises, dans nos monastères, il y a toujours ce privilège que peuvent avoir aussi les jeunes garçons. Ce privilège est peut-être insuffisamment exploité. Ce privilège, il consiste à proposer à des garçons, les élus, d'assister à la liturgie dans le chœur. Moi, j'avais eu cette occasion une fois à Solesmes de déjeuner avec les moines, de me retrouver dans les stalles avec les moines. C'est un privilège de goûter au mystère de près, en immersion, à côté des champions que peuvent être les prêtres, les moines. C'est un privilège de pouvoir parler avec le célébrant, d'accéder à la sacristie, qui peut être une forme aussi de vestiaire, le vestiaire des champions dans lequel personne ne peut pénétrer. Privilège d'aller où sa maman même ne peut se rendre. Le privilège de revêtir le maillot du match, c'est un peu l'aube du servant d'autel. Le privilège de porter le cordon quand on est servant de messe, un peu comme la ceinture du kimono. C'est un privilège et une élection d'être un jour invité à déjeuner à la table des moines, comme on peut être invité à pénétrer dans le vestiaire des champions. Privilège de se rapprocher de l'autel, d'encenser le Saint-Sacrement. Privilège et le service d'être dans le cœur, d'aider et de participer à la prière des fidèles. J'avais ce souvenir petit de retraite que nous faisions à Solesmes et le prêtre nous appelait avec un groupe de quatre garçons à entourer, à faire une garde d'honneur du Saint-Sacrement. Et je me souviens qu'on était à genoux, on restait une demi-heure et puis parfois les genoux tremblaient, les genoux cognait sur le marbre froid de l'église, mais on était heureux, on avait vraiment ce sentiment d'être élu, d'être privilégié, de se rapprocher, mais physiquement, du Christ présent dans la Sainte Eucharistie. Et c'est des choses qui marquent notre corps, qui marquent notre mémoire très profondément et qu'on partageait aussi avec des jeunes garçons, avec des frères en Christ. Il y avait un grand entraîneur de football qui s'appelle Arsène Wenger, qui aujourd'hui s'occupe du développement du football au sein des instances internationales. Il disait que le football en Angleterre, c'est un vrai produit local et la fidélité du supporter à son club se vit comme un baptême, un acte de foi durant toute une vie. Et si on arrive à le faire dans le foot anglais, il faudrait qu'on puisse le faire dans nos églises. Voilà, qu'est-ce qui fait que le fait d'appartenir à telle paroisse, à telle communauté, c'est un baptême, un acte de foi qui nous marque pendant toute une vie. En Angleterre, il y a un événement qui s'appelle le Boxing Day autour des fêtes de Noël. Là, on en est sorti. C'est une période un peu spéciale où, à l'origine, ce Boxing Day qui aujourd'hui est une succession de matchs pendant les fêtes. Et en général, on y va toujours. On se retrouve en famille pendant les fêtes et les hommes de la famille vont ensemble voir ces matchs. Et à l'origine, le Boxing Day, c'était des prêtres qui ouvraient les box, qui ouvraient les troncs des églises pour donner le contenu aux pauvres dans cette période de Noël. Et les patrons offraient des paquets à leurs employés. Et aujourd'hui, alors c'est évidemment une intense activité commerciale, mais c'est intéressant parce que ce sport business, dans sa forme la plus achevée, finalement, vient trouver ses ressources dans des vieilles traditions chrétiennes qui marquaient la mémoire des gens. On retrouve encore une forme de parodie de religion. Et en tout cas, ça montre toujours cette force de ce lien entre le sport et la religion qui venait apporter une respiration et un lien dans la vie des gens, et en particulier la vie des gens aussi les plus modestes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans un stade, mais ça reste quand même une expérience unique. Il y a ces cœurs qui se répondent, qui se réjouissent. Il y a cette clameur au moment du but qui est unique. Il y a ces voisins qui sont des anonymes, qui vous tombent dans les bras. Est-ce que cette ferveur, on le fait au baiser de paix? Au baiser de paix, on devrait vraiment se regarder avec énormément d'intensité, avec énormément d'amour. Et malheureusement, ce sont des gestes un peu trop feutrés, un peu trop... parfois même distancé, on nous dit un geste discret aujourd'hui pour le baiser de paix, alors qu'il pourrait peut-être y avoir une vraie ferveur, celle qu'on retrouve dans les stades. Et puis, il arrive aussi qu'il y ait des événements incroyables dans les stades de foot. Quand, par exemple, Mbappé est venu jouer à Rennes, même s'il jouait à l'extérieur, récemment, le stade s'est levé pour l'ovationner, parce qu'il avait conduit la France à la finale de la Coupe du Monde de foot. Donc le stade qui devrait être hostile, il se lève pour applaudir et pour honorer un adversaire. Il y a des drapeaux, ce qu'on appelle des tifos, qui s'élèvent pour remercier tel joueur qui peut être à la fin de sa carrière. C'est toujours assez beau de voir cette ferveur qui fait écho à une vraie ferveur d'enfance qu'on retrouve dans les stades et qu'on pourrait progressivement, parce qu'on passe du temps ensemble, parce que nos prêtres aussi se mouillent pour faire vivre la communauté, et peut-être durablement. Aujourd'hui, il y a tout un débat, vous savez, sur le fait de faire tourner les prêtres tel un mercato de joueurs tous les 6 ans ou bien tous les 9 ans. Mais quand ça se passe bien, pourquoi ne pas enraciner les prêtres dans leurs églises? Les joueurs aujourd'hui les plus célèbres dans le football sont ceux qui ont eu cette fidélité vis-à-vis de leur club. Ils ont accompagné parfois 10, 15, 20 ans une génération de jeunes dans les familles. Et je pense qu'on a besoin de cette fidélité. C'est comme un enfant qui voit la fidélité de ses parents. Et bien, de la même façon, le prêtre se donne à son peuple, et tous les 6 ans, tel un mercenaire, on ne peut pas le faire changer de paroisse. Je pense que je fais peut-être un petit pas de côté, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir. Quand tout se passe bien, et bien travaillons cette fidélité. Récemment, j'étais dans une petite église de l'Oise, et au-dessus de la sacristie, je voyais un petit ex-voto en disant nous rendons hommage à l'abbé Martin qui a été curé de cette paroisse pendant, j'ai calculé, c'était 32 ans. Et c'est merveilleux. J'ai rencontré un paroissien qui avait encore le souvenir de cet homme de Dieu dont la prière finalement imbibait encore tous les murs. Ce qui est, j'évoquais l'unicité du moment sportif. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est qu'il y a aussi une unicité à chaque messe. Les liturgies sportives, comme la liturgie de la messe, ce n'est pas du théâtre. Il y a des gestes qui nous paraissent codifiés, il y a des célébrants, il y a un décarum, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a jamais de scénario écrit à l'avance. Les prêtres ne sont pas des acteurs. Ils sont livrés, une fois, ils s'inscrivent dans l'histoire et les mémoires pour actualiser le sacrifice de l'Eucharistie. On dit souvent que les exploits du stade ne survivent pas au coucher du soleil. Et la messe, chaque messe est toujours unique. On n'est pas là pour parodier ou pour faire mémoire comme on se souvient, et on fait la même chose que de la première scène. On rend unique la scène du Christ. Le prêtre, quand il célèbre la messe, il actualise l'Eucharistie. Par la prière de l'Épiclèse, en invoquant l'Esprit Saint, il convoque ici et maintenant l'Esprit Saint pour le sacrifice de la messe. Et le Christ, dans l'apparence du pain et du vin, est réellement présent. C'est ce mystère de la foi, c'est la puissance de la croix. Dieu fait homme, livré pour l'humanité, s'offre vulnérable dans le pain de l'Eucharistie, ici et maintenant. Et nous, trop souvent, en tant que spectateurs de ce mystère, on est souvent passifs, on est comme anémiés. On subit parfois ces messes parce qu'on en connaît trop le rituel, on connaît les mouvements et les gestes, mais on oublie d'en goûter la saveur et surtout on oublie de comprendre que ce sacrifice est unique et qu'il s'actualise ici et maintenant, corporellement devant nous et avec nous. Le stade, comme la cathédrale de Pierre, vont offrir un décorum unique, un écrin unique pour que cette liturgie puisse se déployer. Mais l'Église va plus loin. L'Église va plus loin. Et regardons les architectures de nos églises. Anthropologiquement, le stade, c'est une arène circulaire. Tout est centré autour, finalement, comme si on était centré autour des joueurs. Les joueurs, c'est comme des célébrants, ils sont au centre du stade, devant tous ces milliers de regards et des cœurs qui convergent. On y célèbre l'homme, son centre, mais aussi en quelque sorte son nombril. Et après les réjouissances, le stade se vide, il se désacralise, c'est un temple abandonné, un espace fantôme, qui reste hanté par les émotions du passé. Son mouvement naturel, c'est qu'il tourne sur son axe, il s'auto-célèbre en quelque sorte. La vitesse le transforme en toupie. C'est comme la métaphore d'une société de la vitesse dont les mouvements centrifuges éjectent les plus légers. C'est la vision d'une société du progrès qui célèbre son ventre, qui célèbre son nombril, qui pèse sa panse en quelque sorte, comme une société du déchet qui va purger, qui va expulser. L'Église, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus enraciné, c'est beaucoup plus puissant. C'est un vaisseau qui est tourné vers l'Orient. La proue du navire accueille le soleil levant. C'est la lumière du ressuscité. L'Église accueille, elle avance, elle accueille notre humanité pour la célébrer, mais aussi pour la transformer. Saint Maxime le Confesseur, il rappelait que l'architecture d'une Église représente un corps humain. Le sanctuaire, l'espace du prêtre, en est la tête. Le transept, l'espace de la diaconie, du service, représente le cou et les bras. Et la nef, l'espace des fidèles laïcs, en est le corps. Nous sommes décentrés. Nous sommes décentrés. Contrairement au stade qui célèbre un nombril, l'Église nous décentre. La nef nous invite à prendre la mer pour communier au mystère, nous tourner vers l'Orient, la résurrection du Christ. L'Église nous décentre de nos références humaines, trop humaines. La terre crie vers le ciel pour que le ciel rejoigne la terre. L'Église est aussi cet équipage. Il y avait un grand joueur de rugby qui disait, un entraîneur qui s'appelait Guy Noves, qui disait au rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage. Nous, les fidèles, nous sommes un équipage et nous sommes en voyage vers l'Orient. Quand on parle d'orientation professionnelle, ça veut dire qu'on doit trouver notre axe, notre vocation. Notre vocation, c'est la sainteté, c'est l'union vers le Christ. Et l'architecture des églises nous ramène toujours vers cela. C'est pour ça que les églises centrées, en quelque sorte, on a fait dans les années 70-80 des églises un peu comme des stades centrés. Quelque part, anthropologiquement, c'est pas totalement juste. L'Église est un bateau et un navire, et nous avons un corps qui signifie quelque chose. Il y a un mouvement, il y a un élan qui nous interdit aussi de nous regarder le nombril. On a fait ce parallélisme un peu osé entre le stade et l'Église, entre le stade, le gigastade et les méga church. J'expliquais à quel point finalement le dépassement de la foi se retrouvait aussi dans l'architecture de nos églises qui nous décentre, alors que le stade fondamentalement est centré sur le nombril, sur la célébration des champions, des athlètes. La grandeur, la beauté et le dépouillement d'une église amènent le célébrant à s'effacer, à nous conduire au Christ. C'est pour ça que il peut y avoir une tentation aujourd'hui dans nos églises de trop magnifier le célébrant, au risque aussi de montrer au célébrant qu'il est que c'est un grand parleur, que c'est un beau parleur, que c'est aussi un séducteur. Et on est tout le temps sur une ligne de crête. Et le pape Benoît XVI avait bien rappelé l'importance d'orienter la messe et puis de mettre le Christ au cœur de l'Église. C'est pour ça que les messes orientées nous rappellent dans cette orientation, dans ce mouvement, dans cet élan, que nous ne sommes pas là pour célébrer, pour nous célébrer, ou bien pour célébrer même une institution à travers un prêtre très charismatique, mais nous sommes là pauvrement, tel le navire avec sa proue, pour nous orienter vers le Christ et le prêtre et ce pasteur, ce berger, à un moment donné, il s'efface il s'abaisse pour nous élever vers le Christ. Et le pape Benoît XVI avait bien rappelé l'importance de poser devant l'autel ce crucifix pour que le prêtre réellement célèbre la messe face au Christ et non pas dans un dialogue face à l'assemblée. Et en mettant ses cierges sur l'autel pour trouver vraiment ce bon axe, cette belle orientation, cet orient qui est le soleil levant, qui est celui de la résurrection, qui nous vient de Dieu et qui n'est pas juste la célébration d'un nombril humain. Et je crois que cette perspective anthropologique est vraiment intéressante. J'ai pu vous choquer un peu en louant la ferveur qui se trouve dans les stades, mais c'est la grande différence entre ces grandes festivités humaines qui sont magnifiques, qui mobilisent des émotions, et même des émotions presque d'ordre liturgique, presque sacré, et puis, j'allais dire, la vraie sacralité qui nous tourne vers quelque chose de plus grand, de plus mystérieux, de plus silencieux, de plus puissant. Dans tout ce que j'ai pu écrire sur le sport et sur la foi, on parle beaucoup du sport comme le dépassement de soi, et je crois que la foi, c'est le dépassement du dépassement. Et il y a un moment donné où il y a ce saut qualitatif qui va chercher plus loin, plus profond, et aussi dans un abandon face au mystère, et qui est aussi, cet abandon est un espace de liberté pour l'humanité. avant, tout est contrôlé, tout est voilà, il y a une liturgie parfaitement calibrée avec différents tempos, avec différents rythmes. Il y a des odeurs, il y a l'odeur de l'encens, on peut retrouver d'autres odeurs dans le stade, il y a un spectacle visuel. Et puis il y a un moment donné où dans la liturgie chrétienne, il y aura ce temps de silence qui est un espace de liberté, un espace de consentement où le fidèle, peut-être face à un spectacle beaucoup plus appauvri, voilà, aura cet espace de gratuité pour faire ce fiat, pour confier sa vie et pour être nourri de façon plus mystérieuse, plus indicible par le Christ qui va le rejoindre dans sa vie. Et j'aime bien cette notion d'équipage. Donc Guy Novès, ce célèbre entraîneur de Toulouse, il a été entraîneur très longtemps à Toulouse. Je crois plus de 20 ans avant d'être entraîneur de l'équipe de France. Donc je répète l'importance pour les curés de rester des entraîneurs stables et pérennes de leurs églises. Il disait que l'église est un équipage. Et notre église, c'est un pauvre équipage de rescapés, de baptisés, de chercheurs de Dieu, mais aussi de bras cassés. Cet équipage, il se rassemble dans des nefs mal chauffées, toujours ouvertes, toujours offertes. Que nos églises soient toujours ouvertes, ouvertes et exposées, exposées peut-être aux dégradations, mais exposées aussi à la grâce, exposées à la louange. Le jour où on fermera nos églises, ça sera un début de muséification et ça sera finalement ça sera le début de la fin. Le Christ a toujours été exposé, toujours été ouvert. Le martyr, il a été ouvert à la calomnie, ouvert à la trahison. Et nos églises doivent rester ouvertes et surtout gratuites. Et exposé pour qu'il y ait cette voilà c'est toujours cette gratuité. Nous réunissions en particulier en hiver, on le voit avec dans des églises mal chauffées, les pèlerins vont toujours y accéder sans contrôle, sans billet, sans code-barre, sans passeport biométrique. C'est toujours la nef des fous. On va y chercher les sacrements, on va y chercher la grâce. L'Église, c'est un mystère de communion. Communion des lieux, communion des saints. C'est comme une zone franche très, très singulière, une zone de don, une zone j'allais dire presque de don, une zone âpre, et c'est jamais une zone de droit. La règle unique et inédite, c'est la règle de l'amour inconditionnel. Nous cherchons cet espace, nous aspirons toujours à ce mystère, vous voyez. Saint Augustin, il a toujours cherché dans les églises, nous cherchons. Il a dit, mon Dieu, je ne te trouvais pas en dehors de moi parce que je te cherchais mal. Je te cherchais en dehors et tu étais en dedans de moi. Et nous sommes souvent face à cette croix, face à cette nudité de la croix. Dans la frénésie des stades, dans la ferveur de nos liturgies, dans la fraîcheur de nos églises, nous cherchons encore. Nous sommes attirés vers la lumière, nos âmes d'enfants cherchent Dieu, nous voulons Dieu. Et je voudrais terminer par un texte qui m'a beaucoup ému, un texte que j'ai récemment partagé avec un ami artiste. C'est un poète breton qui s'appelle Xavier Gral. Xavier Gral a écrit récemment son texte a été republié il y a 3-4 ans. Il a écrit un testament spirituel destiné à ses filles qu'il appelle Mes Divines. Et dans ce testament spirituel, il parle de sa vie, il parle de sa vie cabossée, sa vie qui était la vie d'un chercheur de Dieu, de quelqu'un qui a baigné dans une religiosité qui était certes très imposée, très formelle, très conventionnelle, parce qu'il était dans la région de Landivisiau en Bretagne, dans un endroit qu'on appelait la terre des prêtres. Et il en a été choqué. Et puis à la fin de sa vie, avec une certaine maturité, il a compris aussi que tout cet enseignement de l'Église avait été profondément structurant, profondément sécurisant, profondément apaisant pour son âme de poète, de brigand, de bandit, comme il le dit. C'était un peu un Rimbaud, un Kerouac, un homme de radicalité et un homme d'absolu. Et Xavier Gral, dans ce texte qui s'appelle L'inconnu me dévore, un moment parle Il parle à ses filles et puis il évoque ces moments de grâce qu'il a pu avoir dans sa vie. Et tout à l'heure, je parlais de l'orientation des églises, le fait que l'église était cet écrin, un peu comme les stades, pour accueillir et pour encadrer la ferveur des fidèles, pour offrir une magnifique liturgie et pour y trouver consolation et puis pour y trouver aussi un langage d'humanité. L'Église n'est pas un temple gnostique. L'Église vient célébrer cette humanité qui crie vers le Seigneur. Et puis l'Église est là pour accompagner, pour consoler cette humanité. Le cardinal Aveline, lors du dernier congrès mission, a pris la parole devant les prêtres et il a vraiment présenté avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour aussi, cette vision de l'Église en disant l'Église. Il reprenait l'évangile de Saint Jean en disant le Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce n'est pas Dieu a tellement aimé l'Église, c'est Dieu a tellement aimé le monde. Et l'Église est là, et comme une médiation, n'est pas un absolu. L'Église institution n'est pas un absolu. L'Église est comme une médiation pour accompagner la rencontre de Dieu avec l'humanité. La rencontre de Dieu avec une humanité en quête. Et cette quête, elle vient se nourrir un peu partout, même dans le sport. Et cette quête, elle continue chaque jour dans nos apprentissages de pèlerins. Et je vais plonger dans le texte de Xavier Grale qui disait à ses filles la chose suivante, en venant en pèlerin sur une église dans laquelle il allait avec ses filles. Il disait la chose suivante: Mes filles, souvenez-vous du grand Christ pendu à une colonne de la chapelle de Saint-Philibert, votre paroisse d'été. Le recteur moderniste, lui aussi, en a ôté la croix. Et le Christ plane comme un oiseau blessé dans le vide de la nef. Mais la croix, c'était notre matière. La croix, c'était notre œuvre à nous. C'était notre crime. C'est nous qui l'avions arraché là avec des clous. C'est nous qui lui avions fait du mal, qui lui avions acheté les clous chez le quincaillier du coin. Un Christ sans croix, c'est absurde. Ça ne veut rien dire. La croix, c'était notre chaîne, notre olivier, notre ramure sur le chemin, notre bourgade, l'allée de notre demeure, notre signe, l'atroce menuiserie de notre cruauté. Mais c'était aussi notre salut. Notre communion avec la chair pantelante de sang et de douleur, notre alliance avec le bon Dieu. Et le Christ, là, maintenant, pareil à un vautour, un cas voguant trop haut, étranger, presque vengeur. La croix, c'était notre terre, notre nature, notre condition, notre incarnation. Ô cruce ave, ô cruce ave, ô cruce ave, Santa Cruce, Santa Cruce. Le recteur a divorcé le Christ d'avec son peuple. Il l'a ôté de la croix et au nom de l'esthétique, il en a fait une hérésie. La foi, c'est ce gibier vertical, cette ramure pareille à la croisée des chemins, un carrefour, une rencontre. Mes filles, vous demanderez à monsieur le recteur de bien vouloir remettre l'humanité à sa place criminelle et espérante. C'est un texte puissant, c'est un texte radical, mais c'est un texte qui exprime vraiment. Ce cri de douleur d'un poète qui comprend dans sa chair, dans son parcours aussi de pèlerin, à tel point la religion chrétienne était une religion de l'incarnation, dans laquelle l'humanité souffrante, l'humanité nervurée, l'humanité remplie de plaies, finalement était une humanité criminelle qui, par le péché, creusait un peu sa tombe. S'auto-mutilait et qui, par son espérance, criait vers le ciel. Et la croix, c'était tout ce travail de l'humanité souffrante et espérance, de l'humanité criminelle, comme il le dit. Et aujourd'hui, une des tentations aussi qu'on peut voir dans l'Église, c'est une tentation aussi de vouloir plaire, d'effacer le péché. Le Christ, quand il l'a rencontré, la femme adultère, il lui a dit va et ne pêche plus. Il ne lui a pas dit va et pêche en paix. Il lui a dit va et ne pêche plus. Et il est très important, chers amis, je crois, dans nos cheminements d'athlètes du Christ, de ne pouvoir jamais enterrer ce péché. Le péché, c'est ce qui permet le déploiement de la miséricorde. Donc il est très important de nommer le mal, de toujours dénoncer le péché, mais de toujours aimer avec encore plus de force, avec une force plus forte encore et plus puissante que celle qui nous permet de dénoncer le péché, d'aimer le pécheur pour qu'il crie vers le ciel et pour que le Seigneur lui apporte cette miséricorde qui est mendiée et qui est désirée. Voilà, chers amis, un peu ce petit cheminement spirituel, ce cheminement sportif qu'on a partagé ensemble, avec ce parallèle entre les stades qui sont des cathédrales de ferveur, que sont nos églises, qui sont aussi des stades de foi. Et puis, on a cheminé ensemble, on a fait ce parallèle, ce lien avec les initiations, avec ces jeunes qui ont besoin de se rapprocher du mystère, avec cette ferveur de communion qui doit aussi nous étreindre, et puis cette conviction que l'Eucharistie est à chaque fois unique et que nos églises ne sont pas là pour célébrer le nombril de l'humanité, mais nous tourner vers le mystère, nous tourner vers ces espaces de gratuité qui vont nous permettre de déployer ce fiat, ce cri d'amour vers le Seigneur. Et à un moment donné, tout le décorum va s'effacer, toute la liturgie va permettre l'éclosion de cette relation intime de foi entre le Seigneur et nous-mêmes, ce cri de petit enfant qui dit « console-moi », qui dit aussi comme le Christ « j'ai soif ». Et au-delà de ce bruit, au-delà de ce décarum, je crois que c'est cette solitude du pèlerin, du pèlerin qui dit au Seigneur: j'ai besoin d'un ami, reste avec moi. Il se fait tard comme les pèlerins d'Emmaüs. Donc voilà, on avance comme des athlètes de Dieu. On n'est pas seul. Nous avons épaule contre notre épaule des frères dans la foi. Les prêtres sont avec nous, pour nous conduire au Christ, pour nous donner Jésus. Et c'est toute notre espérance qui nous habite, et c'est cette joie qui est notre moteur pour, jour après jour, tels des champions, mettre un pied devant l'autre et témoigner par notre corps, par nos gestes de communion, davantage que par nos paroles, témoigner de ce carburant de la foi qui nous irrigue et qui nous réjouit. Chers amis de Radio Maria, on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Nous pourrons parler de la sainteté sportive et de tous ces grands saints qui ont respiré un esprit sportif de communion, de joie, de jeu aussi. Et puis de tous ces champions des stades qui nous ont offert des témoignages de ferveur chrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est que les temps vont peut-être être un peu compliqués, ça va bastonner, mais plus l'adversité est forte, plus on est amené à nous révéler, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on voit que l'humanisme athée est de plus en plus limité, que la ferveur des musulmans, un peu comme Charles de Foucault a pu retrouver la vigueur de sa foi en regardant la ferveur des musulmans, eh bien, on voit que, par exemple, dans les terrains sportifs, il y a comme quelque chose qui se débloque, qui se déloque dans le témoignage de sa foi. On voit de plus en plus de champions chrétiens qui osent dire j'offre mon talent au Christ, et le Christ est celui qui me donne cette foi, cette force, cette conviction, cet élan. Et cet élan, il est destiné au Christ. C'est comme une circulation d'amour, et ces grands champions de plus en plus osent en témoigner. Donc nous traversons une période où il y aura de vieilles idoles qui vont certainement s'affaisser, il y aura des combats même dans notre équipe de chrétiens, et puis il y aura des témoignages ardents, vigoureux, qui vont venir nous réjouir le cœur. Quand les évêques en France étaient à genoux pour demander pardon et puis pour aussi expier les fautes de certains de leurs confrères, donc on a eu ces derniers mois une institution très fragilisée. Et puis, en parallèle, il y avait deux figures de nouveaux champions qui étaient des personnes connues, qui faisaient un plan média. Si vous voulez, les stratèges de la conférence des évêques n'auraient jamais pu imaginer ça. Et on avait un catholique venant de l'islam qui s'appelle Mehdi Djadi, et puis et puis un juif, Gad Elmaleh, qui allait sur tous les plateaux télé, qui disait mais les amis catholiques, témoignez de votre foi. Chers amis de France, le catholicisme est un trésor. Il y a une richesse patrimoniale, il y a une ferveur, il y a une puissance de témoignage incroyable dans le catholicisme. Et donc, il y avait en parallèle une institution un peu centrée sur elle-même, et puis voilà, fragilisée, et puis qui expiait un peu tous ces drames passés qui avaient été trop souvent enfouis. Et puis à côté de ça, il y avait des personnes qui redécouvraient la foi et qui disaient « Soyez joyeux et chers concitoyens français, découvrez la ferveur de nos églises, redécouvrez la puissance de la liturgie catholique. » Et c'est à ça que je vous invite, c'est de voir les grandes et belles choses. Et puis ne pas non plus nous lamenter sur les mutations de ce monde qui traverse notre Église, mais qui ne traverse pas notre foi, parce que notre foi reste toujours ardente et joyeuse, et elle se renouvelle chaque jour. À bientôt, chers amis de Radio Maria, je vous souhaite une belle semaine, et puis restez des athlètes du Christ.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'émission Athlètes du Christ présentée par Arnaud Boutéon. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.